Radio Campus Lille, il est 13h.
On raccroche les wagons. Une émission collective proposée par Alex Rabozzi. C'est sur Radio Campus Lille.
Je sais pas si tu vas le dire dans ton introduction, mais j'aimerais dire les noms des poètes et des poétesses qui figurent dans ce recueil, du coup. Donc il y a des poèmes de Gawad Akkad, Hebal Ara, Mohamed Zakzouk, Khaled Jouma, Haydar El-Ghazali, Hamid Achour et Doha El-Kahlout.
Ce que vous venez d'entendre, c'est le nom de sept auteurs et autrices de poésie palestinienne et palestinienne. Sept auteurs et autrices lus par Lola, traductrice franco-arabe, et membre d'un collectif de sept traducteurs et traductrices souhaitant mettre à l'honneur la poésie palestinienne. Le collectif a réuni au sein d'un recueil de 112 pages des poèmes en arabe et leur traduction en français. Pour le titre du recueil, l'un des auteurs palestiniens, Haydar El-Ghazali, a suggéré une phrase de son poème « Lettre à une colombe sur mon épaule ». Ce que ton cœur connaît est le chant de ce qui me reste de vie. Devenu le chant de ce qui reste de vie. Pour en parler, le 15 mai 2025, nous avons interviewé Lola et Pierre, membres du collectif de traducteurs et traductrices qui nous parlent de la genèse de ce projet, sa construction et de leur lien avec les auteurs et autrices palestiniens et palestiniennes. Donc pour commencer, j'ai une première question, c'est de savoir qui est derrière le collectif donc qui a traduit le recueil que vous avez intitulé « Le chant ». De ce qui reste de vie.
C'est donc un collectif de traducteurs et de traductrices de l'arabe vers le français. Il y a un certain nombre de personnes de ce collectif qui sont notamment dans la revue Café, une autre partie dans la BAM de Marseille, la Bibliothèque Arabe Associée de Marseille, et deux personnes qui ne sont dans ni l'un ni l'autre, mais qui traduisent également de l'arabe vers le français.
Comment en fait vous êtes réunis ? Et vous êtes dit, et si on faisait un recueil de textes, de poèmes, d'auteurs, de poétesses, de poètes palestiniens et palestiniennes ?
À la base, le projet, il est né un peu d'une impulsion de ma part, du coup, je pense que ça naît vraiment d'un sentiment profond de désespoir. Et puis de questionnement aussi, de me dire, en tant que traductrice de l'arabe, qu'est-ce que ça veut dire de traduire de cette langue et des textes écrits donc par des écrivains et écrivaines qui vivent notamment à Gaza en ce moment, mais pas seulement. Et donc j'avais cette réflexion et j'avais ce besoin aussi de partager un petit peu comment je me sentais avec d'autres collègues qui pouvaient sûrement se sentir comme moi. Et il se trouve qu'en parallèle, le prochain numéro de la revue donc dans laquelle Pierre et moi on s'implique, qui est la revue Café, le prochain numéro a pour thème résistance. Et à la base, en fait, le projet, c'était d'imaginer un petit livret, un petit fascicule de poèmes écrits par des Gazaouis qui seraient glissés dans le prochain numéro, mais qui serait surtout préparé à l'occasion du prochain marché de la poésie à Paris, qui aura lieu en juin, et qui a pour pays invité d'honneur, qui a invité la Palestine. Donc il y a un peu tout ça qui s'est superposé et qui a donné naissance au projet. Donc ça, c'était l'idée de base. Donc en fait, c'est surtout moi ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé aux autres personnes au sein de la revue qui traduisent de l'arabe, qui étaient très enthousiastes et je pense qu'ils partageaient un petit peu mon sentiment. Et ensuite, j'ai contacté des personnes que je connaissais, donc des traductrices et des traducteurs de l'arabe que je connaissais, soit très bien, soit seulement de nom, enfin de qui j'avais les contacts, en leur parlant du projet. Le projet n'avait pas vraiment de forme, ni de titre, c'était pas très clair ce que ça allait devenir. Mais voilà, en lançant cette idée, et c'est ce que ça a donné au fil du temps, mais c'était en novembre, finalement, novembre 2024, donc très récemment.
Et de novembre, justement, 2024 à mai 2025, Comment vous avez travaillé en fait à la fois sur la sélection des textes, sur éventuellement des rencontres aussi avec des auteurs, autrices palestiniens, palestiniennes. Comment vous êtes dit en fait quel texte on prend, comment ça marche en fait?
Alors on a beaucoup lu. Et surtout en fait beaucoup de choses sont uniquement en ligne. Là par exemple donc c'est une édition bilingue et certains poèmes c'est la première fois que c'est des poèmes qui sont imprimés parce que sinon certains existent juste sous une forme numérique. Donc on a pris un certain nombre de, on a beaucoup lu, on a aussi regardé parce que actuellement ces derniers temps il y a eu d'autres initiatives des publications autour de poèmes de Palestine ou de Gaza et donc en fait l'idée c'était de pas faire doublon bien sûr avec des poèmes qui auraient déjà été traduits, ce qu'on a plutôt réussi. Donc ça c'était une première étape de mettre en commun des lectures, proposer des auteurs, des autrices et avec dès le début en fait, enfin je sais pas si c'était venu dès le début mais il y avait l'idée qu'en fait on collectait à la fois des poèmes et des textes qui étaient plus proches de la prose ou de lettres et qu'on allait intégrer les deux et donc voilà on a discuté ensemble des poèmes qui nous parlaient dont on se sentait aussi de traduire ça a été un premier travail de sélection.
Je veux ajouter aussi que du coup dans ce groupe qu'on a constitué au fur et à mesure, il y a deux personnes qui sont très très impliquées à la BAM donc, dont on a parlé précédemment qui est une association à Marseille qui est une bibliothèque associative en fait mais qui donc eux organisent très régulièrement depuis quelques mois des soirées de lecture déjà. Donc ils avaient aussi déjà une sélection, en tout cas des noms de poètes à Gaza qui écrivent en ce moment et dont ils connaissaient des textes qu'ils avaient lus sur scène lors de soirées, etc. Donc je pense qu'il y avait aussi cet apport-là. On n'est pas parti de zéro du tout. Il y avait vraiment ça. Et après, je pense que pour les textes, une des premières discussions qu'on a eues, c'était un petit peu comment circonscrire le choix des textes. Est-ce qu'on veut traduire de la poésie ultra-contemporaine ou non? Est-ce qu'on veut traduire des poètes vivants ou non, etc. Et je pense qu'il y avait finalement vraiment la volonté de faire entendre les voix. Donc finalement, dans le recueil, il y a cinq poètes et deux poétesses. Et l'idée, c'était vraiment de faire entendre leur voix. Donc des gens qui, pour la plupart, sont encore à Gaza actuellement, qui sont vivants, qui continuent d'écrire ou qui ont arrêté d'écrire à cause de la guerre. Ça dépend des cas. Et donc finalement, c'était vraiment, on s'est basé sur ces critères-là. Puis ensuite, l'idée, justement, comme tu disais, Pierre, de ne pas faire doublon avec d'autres publications. Donc soit de ne pas choisir les mêmes poètes, mais souvent c'était juste de ne pas choisir les mêmes poèmes. Et c'est un petit peu comme ça que s'est fait la sélection, et après bien sûr par goût, donc ce qu'on avait lu. Et enfin, il y a une dernière chose, c'est qu'en janvier, il y a une association qui s'appelle Ghurfat al-Kitaba, donc la chambre de la lecture, la chambre de l'écriture, on pourrait traduire littéralement, qui est une association de promotion de la littérature, qui avait organisé une soirée de lecture en ligne, donc en live, avec des poètes gazaouis qui lisaient leurs textes. Et il faut dire que beaucoup des noms qui sont dans le recueil sont des poètes qui avaient lu à cette occasion de leurs textes en live. Et même des textes que moi j'ai proposés, du coup, c'était des textes qu'eux-mêmes avaient choisi de lire. Il y a aussi cette idée que, finalement, de choisir ce que les poètes eux-mêmes avaient envie de partager.
Parce qu'il y a eu des rencontres justement, des échanges en direct, on va dire, avec les auteurs, autrices de ce recueil.
On a échangé avec les poètes et les poétesses, donc avec tous et toutes, on a été en contact. Après, les échanges, ils se sont faits plutôt à la suite du choix des textes. Je pense qu'il y a aussi une question de délicatesse de ne pas contacter des poètes si jamais la publication n'aboutit pas. Je pense que ce n'est pas forcément... une bonne idée, mais oui, après, donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, chaque personne qui traduisait était en contact avec le ou la poète pour des questions de traduction, mais je sais que, bon, après, selon les situations, il y a eu des liens plus ou moins forts qui se sont tissés, mais notamment Sarah, je sais qu'elle échange tous les jours avec le poète qu'elle a traduit, qui est Hamed Achour. Et je pense que c'est une des choses qui, je crois, la plus importante dans ce qu'on a fait, c'est d'avoir pu montrer à ces poètes que leur texte était lu et qu'on faisait tout pour les faire entendre en français.
Comment, en tant que traducteur, traductrice, on parvient à respecter le texte initial, donc là écrit en arabe, et donc de le traduire en français en gardant un peu les mêmes idées, même senteur, même goût, même toucher, je ne sais pas comment on peut dire.
Les approches en traduction là sont vraiment très diverses, donc voilà, tout le monde peut défendre sa propre manière de traduire. En tout cas, nous, ce qu'on aime faire, c'est des processus de traduction et de relecture qui passent par un cadre collectif. C'est notamment ce qu'on a fait pour ce recueil, comme ce qu'on fait dans la revue, c'est que le premier jet de la traduction passe d'abord par une première relecture d'une personne qui fait une relecture bilingue, parce que du coup c'est une personne qui peut avoir accès au texte français et au texte arabe, et qui du coup fait ses retours à partir de ça. Et ensuite une deuxième relecture avec une personne qui, pour le coup, maîtrise pas nécessairement la langue et part uniquement du français. Ça, c'est un processus qui est très intéressant parce que ça permet de réfléchir chaque fois à sa propre pratique de traduction, à profiter un peu de ce travail commun pour que ça permette d'enrichir les textes. Et surtout, même si c'est la personne qui traduit qui, à la fin, a le dernier mot, en fait, elle sait pourquoi elle fait tel choix et pas tel autre, parce qu'il n'y a plus à avoir cette discussion, en tout cas, avec les personnes qui ont relu les textes.
Si je peux ajouter quelque chose. Du coup, c'est vrai que sur le processus de relecture, on s'est beaucoup calqué sur notre manière de travailler au sein de la revue. Après, je pense que c'est assez différent. Je pense que dans ce recueil, on a finalement quand même un peu plus accepté que chaque traductrice, chaque traducteur ait un petit peu son approche et sa méthode, un peu plus que dans la revue où on a une ligne au sujet de la traduction qui est beaucoup plus marquée, beaucoup plus franche, notamment avec une introduction qui contextualise, qui explique les difficultés de traduction, etc., ce qu'on n'a pas du tout ici dans le recueil, où on a vraiment laissé la place au texte. Mais voilà, donc je pense qu'on dans le processus de travail, c'est similaire. Après, dans ce que ça donne dans le résultat, on est sur quelque chose d'un petit peu différent, mais tout aussi intéressant.
Et justement, là, ça passe par donc ce recueil que vous avez fait imprimer, relier, maqueter vous-même. C'était quoi cette aventure-là à raconter en quelques jours sur comment ça se passe, en fait, un bouclage, on va dire, avant impression de cette revue, enfin de ce recueil.
Surtout pour avoir une idée, comme disait Lola, la première idée, c'était quelques feuillets qu'on puisse glisser dans un numéro de revue. L'objet, ça ressemble plutôt à un petit livre. C'est une édition bilingue, donc c'est en double, mais en tout, ça fait plus 114 pages, 115 pages. Le volume a augmenté au fur et à mesure du temps. Toutes les options étaient ouvertes, mais en fait, on est vite parti sur l'idée d'un recueil qu'on pourrait vendre à prix libre intégralement, et que de reverser toutes les sommes collectées aux poètes et aux poétesses, et ensuite dans un second temps à des initiatives de solidarité avec les Gazaouis. Et pour vendre quelque chose à prix libre, c'est sûr qu'on peut pas avoir d'ISBN sur un livre, parce que en France, il y a le prix unique du livre. Donc si on dépose un ISBN, si on met un ISBN sur un livre, il faut qu'il y ait un prix fixe sur le livre. Et donc du coup, sur le moment, on avait choisi de plutôt pas passer par là et de passer par une fabrication plus artisanale aussi pour faire aussi un bel objet, un objet qui rend hommage à ce travail des poètes et des poétesses.
Et comment on peut le trouver, justement, ce recueil ? Et comment on peut soutenir les auteurs, autrices palestiniens, palestiniennes ?
L'idée vraiment c'était de préparer ces recueils pour le marché de la poésie, donc en juin. Donc normalement vous pourrez les trouver sur le stand de l'association des éditeurs des Hauts-de-France, parce que du coup on squatte un coin de table grâce à la revue Café dans laquelle on est impliqué. Après je pense que l'idée c'était aussi de faire vivre ce recueil peut-être d'autres manières. Donc je sais que les personnes qui sont impliquées à la BAM vont sûrement faire il y aura un deuxième tirage avec une nouvelle édition enfin l'idée c'est que ce soit diffusé un petit peu partout, et nous on a seulement 200 exemplaires, donc c'est sûr que pour la diffusion ça sera plutôt limité.
Et le faire vivre aussi d'autres manières, c'est aussi que ce soit ça permette en fait des lectures, des événements, parce que voilà, même si une fois que le va dire les exemplaires en tout cas seront épuisés, en tout cas le premier tirage, bah il restera en fait les textes qui peuvent être utilisés, que ce soit dans des manifestations plutôt culturelles d'ailleurs, ou des événements de solidarité avec la Palestine aussi.
Bah merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Moi, je voudrais aussi en profiter pour voilà, remercier en fait toutes les personnes qui ont participé à ce que ce recueil existe. Voilà, il y a donc parce qu'après le collectif de traducteurs et de traductrices, il y a voilà les relecteurs et les relectrices. Il y a un gros travail de la maquette qui a été fait aussi par Sephora Valoton. Il y a Claire qui nous a donné une illustration magnifique. Et après, en fait, tous les coups de main qui ont été donnés au moment de l'impression, de l'assemblage, de la relure. Et ça, c'est aussi très précieux pour que ce recueil vous voie.
Est-ce que tu peux me dire qui t'es ?
Je suis Vianney Delay, en Aélec.
Et tu fais quoi ici ?
Eh ben, je suis en électricité. Là, on est en train de faire un projet. Et ça consiste à faire des personnages avec des outils. Et on doit faire une mise en scène de harcèlement ou de discrimination.
Et c'est pour quelle association ?
C'est le fan.
Parle-moi de l'histoire que vous avez écrite.
En gros, c'est l'histoire d'un marteau qui se fait harceler parce qu'il est plus imposant que les autres. Et après, il y a la scie qui vient le défendre. Et après, les deux harceleurs, ils s'excusent et après, ils sont tous potes.
Comment vous racontez cette histoire ?
On la raconte avec des outils. Parce que chaque outil est différent et chaque outil peut servir à quelque chose. Et il n'y a pas d'outil qui est moins bon que les autres.
Je m'appelle Flora, je travaille pour Cellophane depuis en décousu 3 ans, mais à temps plein à peu près 1 an et demi.
Et pourquoi vous êtes au lycée Jules Curie ?
Parce qu'on fait une intervention avec la classe de Madame Khadija autour de la discrimination et pour faire des films d'animation en stop motion.
Ok, et ça consiste en quoi ?
En fait, les élèves ont tous écrit un petit texte, enfin par groupe de 3, donc de 5, autour du thème de la discrimination, ce qu'ils voulaient en dire et comment la représenter. Donc il y a un groupe qui va plutôt traiter la définition, un autre qui s'occupe plus de comment on réagit face à ça, et un dernier groupe qui s'occupe plus de comment faire un vivre ensemble fonctionnel.
Bonjour, alors moi je suis Khadija Bouniv, professeure de français et histoire géo au lycée Joliot-Curie. Donc ce projet avec Cellophane, ça fait plusieurs années que je travaille avec eux. Et je trouvais intéressant de travailler sur une thématique comme celle-là à partir d'objets du quotidien des élèves pour construire un petit dessin animé.
D'accord. Et pourquoi notre classe et pas une autre ?
Pourquoi votre classe et pas une autre ? Déjà parce que j'ai choisi la problématique des discriminations parce qu'à plusieurs reprises j'ai entendu des petites choses qui n'étaient pas toujours très correctes au sein de la classe et je trouvais que c'était un bon moyen de les faire réfléchir sur ces problématiques.
D'accord. Et à quoi sert ce projet du coup ?
Justement, à réfléchir sur la problématique des discriminations. Et à sensibiliser les élèves à ce que c'est, ce que ça peut provoquer, les conséquences que ça peut avoir et comment y remédier.
Mais est-ce que c'est comme le harcèlement ?
Le harcèlement peut être une forme de discrimination, ou en tout cas une conséquence qui démarre avec les discriminations.
Merci de votre patience.
Merci.
Je dirais ouais sur la partie là noire, on peut faire un peu d'herbe. Et après,
Bonjour Monsieur Algrin, j'ai quelques questions à vous poser sur le projet que nous sommes en train de faire, sur la discrimination, s'il vous plaît.
Oui, je vous écoute.
Pourquoi faisons-nous ce projet ?
Alors pourquoi ? C'est parce que Madame Bounif et moi avons observé que dans les relations interpersonnelles entre élèves, l'insulte est la normalité, en deux mots. Et il se trouve que nous, enseignants, adultes, éducateurs, pour nous, c'est une anormalité. Voilà, donc ça c'est le point de départ du projet.
Très bien. Pouvez-vous nous donner le mot exact qui définit la discrimination ?
Le manque de respect, je dirais.
Et qu'en pensez-vous ?
C'est une très bonne chose pour vous faire prendre conscience, justement, du respect que vous devez avoir les uns envers les autres pour vivre mieux ensemble, je pense.
Bonjour Anne-Sophie, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Alors je suis Anne-Sophie Malric, je suis AESH au lycée depuis quelques années. Donc j'accompagne les élèves en situation de handicap, en les aidant dans différents apprentissages.
Que vous avez pensé de ce projet ?
J'apprécie beaucoup la médiation par les activités artistiques et culturelles. Cela permet de favoriser la relation et les interactions entre les jeunes et les adultes. Et j'ai bien aimé participer à ce projet parce que ça a permis aux élèves d'être sensibilisés au sujet de la discrimination en les rendant acteurs. Cela a permis de les mobiliser et de les aider à mieux appréhender le sujet.
Est-ce que pour vous, la discrimination est comme le harcèlement ?
Bien, pour moi, la discrimination, c'est un peu le fait de mettre de côté une personne ou un groupe de personnes en remettant en cause une caractéristique personnelle. Mais ça peut être par rapport à leurs origines, par rapport à un handicap, par rapport à leur orientation sexuelle ou autre. Et ça peut être de les priver d'un droit ou par exemple leur refuser un accès à un poste de travail ou quelque chose d'autre. Et par contre, le harcèlement, c'est pour moi, c'est le fait de faire subir à une personne des violences, que ce soit physique, psychologique ou autre, de manière répétée. Et du coup, ça engendre un mal-être sur la personne. Donc je dirais plutôt que pour moi, le harcèlement, ça peut être une forme de discrimination. Ça peut se relier.
Début 2025, donc il y a la proposition de loi Duplon qui est examinée à l'Assemblée nationale et au Sénat. Duplon, c'est le nom du sénateur Les Républicains Laurent Duplon qui porte une loi visant à lever les contraintes des agriculteurs et notamment à réintroduire un pesticide néonicotinoïde, tueur d'abeilles, à soutenir des projets de méga-bassines ou encore des élevages industriels. Un texte dont se félicite Arnaud Rousseau, le patron de la puissante Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, donc la FNSEA, tout comme les jeunes agriculteurs ou encore la coordination rurale. Tous les syndicats agricoles semblent en faveur de cette loi. Tous, non. La Confédération paysanne s'y oppose. Et pour en parler, nous sommes au téléphone avec Antoine Gommel, donc porte-parole de la Confédération paysanne du Nord-Pas-de-Calais. Donc bonjour Antoine Gommel.
Bonjour.
Bah vraiment, merci d'être avec nous. Et pour commencer, je voulais parler avec vous en fait, du métier d'agriculteur. Parce que là, vous êtes agriculteur du côté de Boulogne-sur-Mer. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, concrètement en fait, être installé donc à Boulogne-sur-Mer en tant que, avec ce métier d'agriculteur en fait.
Je suis à une dizaine de 10-15 km de Boulogne-sur-Mer, dans le Boulonnais. J'ai une ferme d'élevage. Donc moi, dans la ferme, il y a élevage bovin pour la viande et puis un élevage de poulet pour la viande aussi, poulet de chair. Voilà, l'élevage poulet est certifié bio et l'élevage bovin, il est pas certifié bio, mais il est 100% à l'herbe. Donc pâturage au maximum et puis foin l'hiver. Voilà, je suis sur une petite ferme, on va dire, 24 hectares. Une ferme, pour une ferme d'élevage, c'est une petite structure. Voilà, et tourner plutôt donc vers la vente directe. Aujourd'hui, donc moi, ça fait bientôt 10 ans que je suis installé sur cette ferme, qui était la ferme familiale auparavant. Et ben mon, je sais pas, mon quotidien, c'est vraiment être dehors avec les animaux et voilà, il y a un travail vraiment quotidien, hein, c'est 365 jours par an. Voilà, mon but en gros, c'est de d'élever des animaux, là, en l'occurrence des bovins, uniquement à base d'herbe, sur des prairies permanentes et des prairies, on va dire, pas ressemées, etc. Donc avec une flore variée, il y a pas mal de haies, j'ai des mares, etc. Donc avec vraiment un enjeu de dire j'essaye de pratiquer mon métier sans impact, en impactant le moins possible la planète, quoi. Donc, que ce soit la biodiversité, l'eau, etc., les sols.
C'est bien, il y aura des choses à dire par rapport à la loi du plomb. Mais avant d'en venir à la loi du plomb, peut-être en quelques mots pour les auditeurs et auditrices qui peut-être ne connaissent pas trop en fait comment les syndicats agricoles fonctionnent et comment en fait ils peuvent s'opposer les uns avec les autres. Comment on pourrait présenter en fait la Confédération paysanne? Donc c'est les enjeux portés par la Confédération paysanne, les combats menés par rapport à d'autres syndicats, donc je pense à la coordination rurale, aux jeunes agriculteurs ou encore à la FNSEA. Ouais, quelles particularités on peut retrouver derrière la Confédération paysanne ?
La Confédération paysanne, c'est au niveau national, en termes de, on va dire, de représentativité suite aux élections professionnelles, donc c'est le troisième syndicat en France, qui représente au niveau national toujours un peu plus de 20% donc des votes aux dernières élections professionnelles. Et c'est, par contre, en termes d'ancienneté, peut-être le deuxième syndicat. Hein, il a été créé dans les années 80, à l'époque où il n'y avait pas de pluralité syndicale, quoi. En tout cas, aujourd'hui, dans les positions et les valeurs que porte la Confédération paysanne, elle est vraiment à contre-courant de ce que peuvent demander et proposer les autres syndicats agricoles, hein, que ce soit la FNSEA, les jeunes agriculteurs ou la coordination rurale. On peut mettre en avant le projet de l'agriculture paysanne, c'est-à-dire une agriculture, bon, je le disais un peu dans l'introduction et ma façon de travailler, mais une agriculture qui respecte le vivant, qui respecte donc les hommes et les femmes qui travaillent pour l'agriculture, qui respecte également la biodiversité, la planète, les sols, l'eau, etc., qui rend les paysans les plus autonomes possibles et qui produit une alimentation également de qualité pour la meilleure santé de la population en général. Donc c'est du coup avec une volonté d'être contre, enfin d'être s'opposer à l'industrialisation de l'agriculture, à l'internationalisation des échanges, notamment par le biais des accords de libre-échange, et à relocaliser fortement l'agriculture et la consommation. Voilà, si je peux. Et en gros, on est ceux qui défendons les petites fermes, les projets aussi qui peuvent parfois ne pas être pris au sérieux par les autres syndicats ou les chambres d'agriculture, mais qui ont un enjeu fort en termes d'alimentation locale et d'emploi local. Voilà un petit peu l'essence de la Confédération paysanne.
Donc maintenant, sur la loi Duplomb, comment est-ce que vous comprenez l'arrivée de cette proposition de loi et surtout dans quel contexte en fait elle arrive cette loi ?
Bah alors comment on analyse ça ? Donc bon, deux choses. Hein, le monsieur Laurent Duplomb là, c'est donc maintenant un homme politique, mais qui auparavant a été quand même président de la FDSEA. Je ne sais plus quel département, mais en Auvergne, président de la Chambre d'agriculture, etc. C'est un agriculteur lui-même. Donc, voilà, la loi Duplomb, c'est vraiment le projet de la FNSEA qui est porté devant le Parlement. Dans quel contexte ça arrive ? Bon, bah, depuis quand même janvier 2024 et puis toutes ces manifestations agricoles, il y a quand même eu un lâcher-prise de la part du gouvernement sur les questions notamment environnementales ou etc. Et du coup, en gros, ils ont mis le pied dans la porte et maintenant, ils essaient, donc quand je dis ils, c'est notamment la FNSEA, hein, ils essayent vraiment de lever, entre guillemets, toutes les contraintes qui ont pu être mises pendant des années, qu'elles soient au niveau administratif ou environnemental. En argumentant que c'est pour permettre à tous les agriculteurs de pouvoir entreprendre, de simplifier le métier. Alors que si on regarde un peu le détail de cette loi, ça va pas profiter à un grand nombre d'agriculteurs, mais plutôt à une petite minorité de gros agriculteurs, quoi. Mais du coup, pour revenir sur le contexte, c'est quand même une faute de la part du gouvernement d'avoir lâché sur ces questions-là qui concernent pas que les agriculteurs. Hein. Enfin, je veux dire, quand on met en place notamment des règles au niveau de l'environnement, etc. C'est pour, des règles pour protéger l'eau, c'est tout le monde qui boit de l'eau, quoi. Hein. Tout le monde qui respire de l'air, ou etc. Et donc, ce sont quand même des lois qui sont là pour protéger l'ensemble de la population et pas pour embêter, entre guillemets, les agriculteurs, quoi. Mais, donc, le contexte, il est là, quoi. Il est vraiment sur on a laissé faire, on a dit ok, désolé, on va enlever tout ça et vraiment pour aller dans plusieurs réunions, etc. Ils se croient tout permis et ils parlent que ce soit aux politiques ou aux représentants de l'État d'une manière qui est vraiment affligeante.
Ils se croient un peu tout permis et j'ai envie de dire là, ce qu'on a vu là, c'était hier ou cette nuit, une manœuvre législative et politique qui fait que le texte ne sera même pas débattu à l'Assemblée nationale, donc évitant tout débat démocratique. Je ne sais pas si vous avez suivi ça.
Oui, bien sûr, en fait, ce sont les députés LR qui ont rejeté en fait le texte alors que c'est leur, pour éviter d'aller débattre des 2000 amendements que l'opposition avait inclus à ce texte. Donc la motion de rejet par la droite, effectivement, c'est un déni de démocratie. Et encore une fois, ça donne un semblant, entre guillemets, à la FNSEA de dire il n'y a pas de débat, quoi. C'est nous qui avons raison et entre guillemets, arrêter de nous embêter avec des normes, des contraintes et tout. Et avec la loi et la démocratie et le débat, nous, on n'en veut pas, quoi. Donc c'est vraiment écœurant de voir ce qui se passe et d'éviter quand même un débat politique, enfin à l'Assemblée là-dessus, alors que ça, encore une fois, moi je dis, ça ne concerne pas que les agriculteurs, quoi. C'est-à-dire que les décisions qui sont prises là impactent l'ensemble de la société et l'ensemble des habitants.
Et justement, sur ce qui va impacter les habitants, je ne sais pas si vous pouvez revenir un peu vraiment sur les propositions un peu phares de cette loi.
Il y a plusieurs choses. Si on prend, donc vous avez dit, bon, il y a cette histoire de néonicotinoïdes. Je veux dire, c'est quand même un retour en arrière. Il est aujourd'hui prouvé qu'il y a une toxicité avérée, des risques de cancer, qu'il va y avoir, que ce sont des produits qui réduisent et qui tuent les pollinisateurs, enfin, en tout cas, une partie des pollinisateurs. Donc ça, c'est la première chose, la dangerosité, que ce soit pour les paysans ou pour les personnes exposées autour sur les néonicotinoïdes. Mais il n'y a pas que ça dans ce texte. Il y a aussi notamment la question du partage de l'eau, par exemple, qui est donc nous un des combats aussi de la Confédération paysanne, en disant l'eau est une ressource qui est en tension de plus en plus, et par sa disponibilité, mais aussi par sa qualité. Et en fait, dans ce texte, il y a une simplification, en gros, des projets, en tout cas une simplification administrative pour les projets de gestion de l'eau, entre guillemets, en tout cas, nous, ce qu'on appelle les méga-bassines, donc qui sont en gros des projets où on ne partage pas l'eau. C'est-à-dire que là, l'eau est stockée au bénéfice de quelques-uns, hein, principalement souvent des cultures destinées à l'export. Et ce texte va favoriser cela. Alors que depuis des années, nous, on se bat contre ça et que des décisions judiciaires donnent régulièrement raison aux actions que la Confédération paysanne et ses partenaires peuvent mener contre les méga-bassines. Donc ça, c'est sur l'eau. Il y a aussi tout un autre champ sur ce qu'on appelle les installations classées, donc c'est-à-dire les très, très grosses fermes d'élevage. Si on prend l'exemple, par exemple, des bovins, aujourd'hui, au-dessus d'un certain nombre, il faut demander des autorisations spéciales qu'on appelle ICPE, hein, les trucs ICPE. Et aujourd'hui, avec le nouveau seuil, donc on va augmenter le seuil qui permet d'ouvrir une grosse ferme-usine sans autorisation. En fait, ça va concerner quoi, moins de 2000 fermes en France en bovin-lait, alors qu'il y a quasiment 150 000 exploitations en bovin-lait en France. Donc, ça va vraiment concerner un très petit nombre de personnes, mais avoir un impact environnemental pour la majorité des gens. Donc, voilà. Et pour nous, ce texte, il ne règle pas du tout, en gros… En fait, les problématiques agricoles actuelles, à savoir le problématique du revenu principalement. Et donc là-dessus, voilà pourquoi nous, on est contre.
Mais justement, c'était ma dernière question. C'est quels sont les enjeux justement des agriculteurs et agricultrices qui ne sont pas traités par les pouvoirs publics, que vous auriez aimé, vous, voir formuler dans une loi, pas celle-ci, j'imagine, mais dans une autre loi en tout cas, faire passer d'autres messages, d'autres enjeux qui pour vous, vous semble plus pertinent par rapport à la vie des agriculteurs et agricultrices aujourd'hui?
Ben alors nous, enfin, ce qu'on remet toujours en avant, parce que le combat principal, hein, c'est le revenu des agriculteurs, c'est-à-dire un revenu qui leur permette de vivre dignement, qui leur permette de voir l'avenir sereinement, qui leur permette d'avoir une protection sociale comparable, on va dire, à la majorité de la population, etc. Et en fait, c'est pas, enfin, vraiment pas cette loi qui va permettre ça. Nous, les propositions qu'on met en avant depuis plusieurs années maintenant là-dessus, elles sont assez simples, entre guillemets, hein, c'est-à-dire d'avoir des prix minimum garantis en fonction des productions qui couvrent les coûts de production des agriculteurs, ainsi que, comme je disais tout à l'heure, ainsi que la protection sociale. Hein. Donc, ces prix minimum garantis au sein du marché français, mais aussi ce qu'on appelait des prix planchers au niveau européen pour toutes les productions importées qui permettent pas, enfin qui évitent du coup une concurrence, on va dire déloyale entre guillemets entre les produits en Europe et ceux produits à l'étranger. Ça c'est la première chose. On est aussi, pour que ça puisse fonctionner, il faut arrêter les accords de libre-échange qui en fait ne sont qu'un outil qui met en concurrence les agriculteurs aux quatre coins du monde et en France qui les met en concurrence les uns contre les autres. Et en fait, des accords de libre-échange et de la concurrence, ça ne peut faire qu'une chose, c'est-à-dire baisser les prix, et donc c'est à l'opposé de gagner des revenus pour les agriculteurs, quoi. Donc ça, c'est vraiment les deux propositions que nous, on met en avant et qui permettraient vraiment de changer la donne.
Bah, merci beaucoup, Antoine Gommel. Donc, je rappelle, vous êtes porte-parole de la Confédération paysanne et, par ailleurs, agriculteur et éleveur, donc du côté de Boulogne-sur-Mer.
Charles Fréchon à Blangy-sur-Bresle.
Alors.
Charles Fréchon.
Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez de l'école ici?
Moi, j'aime beaucoup parce qu'il y a mes meilleurs amis comme Léna, Kaila, Azilis, Angèle et plein de monde.
Et toi, t'aimes bien?
Oh oui, j'aime beaucoup l'école. Déjà, les professeurs, ils sont gentils. On mange bien quand même à la cantine. Puis j'ai toutes mes copines.
Et l'autre jour, j'ai vu un article qui parlait d'une classe qu'elle est peut-être fermée. Est-ce que vous avez entendu parler de ça ?
Oui. Je suis contre la fermeture d'une classe.
Je suis contre la fermeture de classe à Charles Frichon.
Parce que si il y a une classe qui ferme, qu'est-ce qu'on risque, les filles ? Qu'est-ce qu'on risque ?
Ben, en fait, il y aura plus d'élèves dans une classe et ça va être beaucoup plus bruyant, ça va être beaucoup plus compliqué pour les professeurs de s'occuper des élèves.
Ben, pareil, je dis pareil que Kayla. Je suis contre la fermeture de classe à Charles Frichon.
Alors, c'est quoi ton plat préféré ?
Les pâtes carbo.
Les pâtes carbo ont du succès. Eh ben, tu le dis. C'est quoi ton plat préféré, toi ?
Bon, les pâtes carbonara. Et j'aime bien les hamburgers. Et moi, je pense que ça va être les frites nuggets avec de la sauce barbecue.
Eh, dis donc, c'est assez gras ce que vous mangez. Vous pouvez pas manger, les gars, un truc un peu plus avec des légumes ?
Bah, j'en mange souvent, moi. Bah, des tomates.
Des tomates l'hiver ?
Ouais, après j'aime bien la soupe.
Mais les tomates l'hiver, c'est pas possible, ça pousse l'été.
Bah alors, j'aime un peu tout, le fenouil, pour l'été, la citrouille, et voilà.
Fenouil, citrouille ?
Ouais, j'aime bien.
Et vous préférez manger chez vous ou ici à la cantoche ?
La cantoche, c'est bien, mais chez moi aussi, mais je préfère quand même la cantoche, on s'amuse.
La cantine, on peut manger avec nos copains, c'est mieux.
C'est quoi les copains ? Ça veut dire quoi avoir des amis ?
Bah jouer avec eux, jouer, discuter, ouais. Et voilà. Bah,
vous discutez de quoi ?
Bah de tout.
De politique ?
Non.
Bonjour mes chers compatriotes, j'annonce plus de cours de sport pour le collège.
Mes chers compatriotes, je vous annonce qu'il y aura moins de devoirs au collège.
Moins de cours d'anglais.
Il n'y aura plus cours de techno.
Plus cours l'après-midi et que le matin.
Mes chers compatriotes, je vous annonce qu'il n'y aura plus cours le mercredi. Merci, merci, merci.
Mes chers compatriotes, je propose de toujours commencer à 10h30.
Chers élèves, j'annonce que les professeurs seront renvoyés du collège s'ils sont méchants avec leurs élèves.
Mes chers compatriotes, j'autorise le téléphone dans les cours de récréation.
Faire un vote pour savoir quel prochain sport nous allons faire.
Peut-être avoir moins d'élèves par classe.
Chers élèves, je vous propose un menu adapté pour chaque élève du collège.
Il faut de la viande halal.
Pour les musulmans, il faut autre chose pour les végétariens.
Végétariens,
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 végétariens, végétariens, végétariens.
Les adultes pensent qu'on est trop scotché aux écrans.
Est-ce que c'est vrai ?
Peut-être.
Les parents, ils pensent qu'on est paresseux.
Les adultes pensent qu'on est des wesh-wesh.
Les parents pensent qu'on est de plus en plus vulgaires.
Que les futures générations sont perdues.
Bah, il faut faire attention à la nature et c'est surtout, c'est plutôt eux qui ont commencé à la détruire.
Mes parents disent que je joue trop à la console.
Que je suis un gros radin.
Qu'on est paresseux.
Qu'on reste trop souvent sur nos téléphones et qu'on fait rien de journée.
Mes parents pensent que je ne fais pas assez de sport.
Alors qu'en fait, t'es un grand sportif.
Peut-être, peut-être.
La dernière fois, mon père, il a râlé parce que j'étais jamais à la maison et que je sortais trop.
Et alors, ça veut dire quoi ? Ils pensent quoi des jeunes ?
Bah, que faudrait qu'on sorte plus et quand on sort trop, ils nous disent de rentrer.
Les parents, ils abusent tout le temps en disant que nous, on est pour y gâter et que eux, ils avaient des clémentines à Noël.
Et toi, tu te sens pourri gâté ?
Non. Enfin, oui, un peu, oui, un peu, oui, un peu, oui, un peu, oui, un peu.
On raccroche les wagons. Une émission collective proposée par Alex Rabotzi. C'est sur Radio Campus Lille.
Alors, comment vous voyez-vous dans 20 ans ? Comment vous serez ?
J'espère avoir ma maison,
parce que c'est bien d'avoir sa maison, son foyer, et aussi d'avoir mon conjoint ou mon mari. Et j'espère avoir assez d'argent pour faire plaisir à moi et mes proches, parce que je compte et j'espère faire mes voyages. Voilà.
Et ton travail ?
Mon travail, je ne sais pas trop, mais j'espère vivre de ma passion, parce que c'est principal. Moi, je ne veux pas me retrouver à faire du 8h-18h tous les jours en faisant un métier que je n'aime pas pour rapporter de l'argent et que tous les jours, je m'en plaigne. Je préfère faire un métier qui me rapporte peu et où je me sens bien et que j'ai moins de moyens que de faire un métier qui ne me plaît pas et que je sois dans une mauvaise vie.
Camille.
Alors moi, dans le futur, j'aimerais avoir un travail qui rapporte, car pour moi, l'argent fait clairement le bonheur. C'est-à-dire que le bonheur sentimental, avoir des amis, c'est bien, d'accord, mais avoir de l'argent, c'est plus important, je trouve, parce que pour manger, il faut de l'argent, pour avoir une maison, il faut de l'argent, pour avoir un véhicule, juste pour vivre, et tu survis sans argent, tu ne vis pas, voilà. Bref.
Et quand t'as de l'argent, t'as des amis.
Pas forcément des amis sincères, mais donc moi ça m'intéresse pas, mais je veux dire, quand t'as de l'argent, tu peux voyager ou faire les choses qui te plaisent, parce que pour faire des choses qui te plaisent, il faut forcément de l'argent, genre t'aimes faire de la guitare, les cours c'est payant, t'aimes voyager, il faut prendre un avion, c'est payant, t'aimes, je sais pas, visiter des musées, les musées c'est payant, voilà.
Steven, comment tu t'imagines plus tard ?
Rester dans la même profession et évoluer.
Ah, évoluer.
Avoir un véhicule, une maison.
Des enfants ?
Avoir.
On verra pour Steven, hein. Croise les doigts. Lucie, dans 20 ans.
Je sais pas, peut-être au cimetière. Hein.
Élise, dans 20 ans.
Moi aussi, je suis du même avis que Lucie. En fait, genre, je me vois pas vivre vieille. Genre, je me vois mourir jeune. Enfin, je sais pas, c'est bizarre à dire, mais. Genre, je sais pas, je me vois pas construire ma vie et tout. Genre, je veux rester à mon âge là infiniment. Genre, je voudrais pas avoir des responsabilités et tout. Genre, je me vois pas avoir des enfants et tout. C'est...
Un petit syndrome de Peter Pan là, du côté d'Élise. Elle ne veut pas grandir.
Des enfants, en vrai, je sais pas. Parce qu'en vrai, on l'a vu à la colo que je supporte mal les autres gens que j'aime pas. En plus, de plus, je mange pas de légumes. Donc, en vrai, je pense que je suis pas prête à devenir adulte. J'aime pas les légumes.
Parce que être adulte, c'est manger des légumes ?
Oui.
On raccroche les wagons. Une émission collective proposée par Alex Rabotzi. C'est sur Radio Campus Lille.
froid. Les mammouths ont le pas très léger, ni trop agile, ni trop maladroit. Ils sont fiers de pouvoir déclarer que, contrairement à ce que l'on dit, les mammouths sont des gars très polis. Bien coiffés, les ongles vernis, ils furent ravis quand on leur apprit que à poil ras, en lourdeur nettement supérieure. Tout se flétrit sous leurs gros doigts, tout s'aplatit sous leurs pieds plats.